Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Emmanuel Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice d'un troisième roman. C'est plus que trois parce qu'il y a eu d'autres collections. Mais enfin, dans votre collection policière qui avait commencé en 2021 avec Malattrait, puis deux ans plus tard avec Dormez en paix, un troisième chapitre de cette aventure pour vous, c'est Immaculée Connexion, paru cet automne. On va en parler avec vous. Vous m'avez proposé qu'on se rencontre à Aigle. Pas n'importe où à Aigle, dans le quartier du Cloître. Pourquoi ?
Alors, dans le quartier du Cloître, parce que c'est un des vieux quartiers d'Aigle. Donc, c'est un très joli quartier vigneron qui mérite d'être découvert au pied du château et autour de l'église. Mais en plus, en période de l'Avent, il y a les crèches du Cloître. Et les crèches du Cloître, c'est un parcours avec différentes crèches de différentes grandeurs. C'est gratuit, c'est vraiment une déambulation qu'on peut faire en famille, en amoureux, avec son chien, autour de différentes crèches, différentes...
En maisons. Amoureux avec son chien, il n'y a pas de virgule, hein, d'accord c'est pour moi. Hein.
En amoureux avec qui on veut. Et c'est vraiment tout un parcours de crèches autour de ce quartier, gratuit, illuminé en fin de semaine, à la tombée de la nuit. Donc,
alors nous, on se voit en fin de matinée. Heureusement, il fait beau. C'est très joli. Le quartier est merveilleux, bien sûr. Le soir, évidemment, magie particulière.
Le soir, avec, il y a une magie particulière.
L'illumination,
avec
c'est à la bougie.
C'est à la bougie, hein. Dans des cagettes qui servent aux vendanges. Donc, on a à la fois l'identité vigneronne du quartier et puis à la fois le côté un petit peu ton de l'avant, féerie, d'antan, loin de la course aux cadeaux. Il y a aussi des tas d'animations qui sont prévues par les différents vignerons, avec des caves ouvertes, je crois qu'il y a des soirées contes, enfin il y a tout un programme qu'on doit trouver sur le site de l'Office du Tourisme ou directement à l'Office du Tourisme, enfin simplement pour se balader, je trouve que le quartier s'y prête.
C'est un peu hein, les vignerons qui mettent
en
place ça.
C'est beaucoup
et
les
qui...
vignerons, c'est beaucoup Raël Eisenschmidt de la cave Emery pour la cité parce qu'elle fait un boulot formidable aussi de déco et d'animation et puis je trouve que c'est génial de voir tout un quartier qui se bouge pour organiser ces crèches sans attendre des retombées économiques mirobolantes, mais simplement pour faire vivre le quartier et puis cette période un petit peu particulière de fin d'année. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Rendez-vous au quartier du Cloître à Aigle. En plus, il y a même du vin chaud sans alcool. Donc tout le monde est bienvenu.
Où va-t-on, voilà. Ma pauvre dame ? Du vin chaud sans alcool. Donc bientôt du vin chaud froid. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. Bon,
si on attend trop longtemps, il rafraîchit.
Oui. C'est sûr. Bah d'ailleurs, ça pique un peu ce matin et la cave que vous avez citée, la cave Emery, nous accueille dans un Carnot s'échauffer, ce qui est pas désagréable. Vous avez fait la journaliste avant de faire de l'écrivaine.
J'ai fait ça, entre autres, dans ma vie, oui, c'est
voilà,
vrai.
L'Agence Télégraphique Suisse, diverses expériences d'ailleurs de journalisme, de communication. J'ai vu que vous avez travaillé pendant quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, à la FEDEVACO, la Fédération Vaudoise de Coopération, comme secrétaire général. Ça veut dire quelque chose qui vous attire vers ce monde de l'entraide, de la coopération, l'humanitaire. C'était volontaire, c'était un hasard de la vie.
C'était vraiment volontaire et j'ai beaucoup aimé cette période dans la coopération qui fait écho d'ailleurs au comité de la Fondation Suissaide à Berne. C'est une activité que j'ai gardée annexe parce que je trouve que c'est hyper important. J'ai commencé ma vie professionnelle en fait à Amnesty International. Donc tout ce qui touche aux droits humains, relations nord-sud, je trouve que c'est hyper important, d'autant plus important dans notre monde globalisé. Et c'est une période où j'ai énormément appris aussi d'associations tenues par des personnes migrantes qui faisaient vraiment les passerelles entre des savoir-faire du Sud qu'elles implémentaient au Nord. Et ça, c'était vraiment pour moi. Et puis des projets aussi venus du Nord qu'elles implémentaient au Sud. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce dialogue Nord-Sud où c'était pas dans un esprit colonialiste. artistes, mais où on partageait ensemble nos savoirs.
Je fais un petit rappel sur la FEDEVACO, hein, c'est la fêtière, donc c'est la fédération de toutes les petites ONG, les petites organisations cantonales, les petites ou les grosses d'ailleurs, hein, il y en a des grandes. Il y a l'équivalent en Valais, c'est Valais Solidaire.
C'est Valais Solidaire.
Qui justement aide les petites, les moyennes, les grosses structures à se débattre dans ce monde de la recherche de fonds, etc. C'est évidemment complexe et compliqué. On va venir au livre dans la deuxième partie, mais déjà, vous laissez de la place à des personnages de migrants, ce qui n'est pas anodin.
Alors, c'est vrai, dans mon dernier roman, notamment Immaculée Connexion, j'ai un ou deux personnages de migrants. Alors, c'est vrai qu'il y a probablement des valeurs qui transparaissent dans mes livres qui viennent de ma vie d'avant ou d'autres choses. Ce que je trouve hyper important dans l'écriture, en particulier de polar, c'est de pouvoir traverser les différentes couches sociales et puis de porter un regard là où la littérature ou l'écriture va pas forcément soit regarder ou ne s'intéresse pas. Donc de pouvoir aborder la problématique, une certaine fragilité des personnes qui migrent, notamment les mineurs non accompagnés. Je trouvais que c'était important de thématiser ça par le regard d'un de mes personnages.
Et puis casser certains clichés par des petits étonnements que vous provoquez chez le lecteur. Moi, j'ai beaucoup aimé comprendre au bout d'un moment qu'un de vos personnages, il s'appelle Aboubacar, dans son casque audio, il n'écoute pas forcément du rap, il écoute du Debussy, ce qui est contre-intuitif et joli, j'ai trouvé.
C'est ça, c'est qu'il y a aussi une grande culture, on va dire, francophone, francophile, alors peut-être qu'il se perd un peu maintenant, mais en Afrique de l'Ouest, enfin moi, mes plus grandes, j'ai eu des discussions sur des compositeurs français ou des choses comme ça, en plein Dakar, en l'occurrence plutôt au Sénégal, et j'avais envie de refléter ça, cette espèce d'immense amour, soif de la culture, des cultures sous toutes leurs formes, et puis on peut très bien écouter du rap un soir, et puis de la musique classique le lendemain.
Même tout le monde, hein, évidemment, c'est encore heureux. Mais l'aventure de l'écriture est assez récente, hein. Vous avez un joli rythme, 2 ans, un gros roman. Je disais qu'il y avait une autre aventure, c'était Gore des Alpes, hein, qui est où vous avez sorti un de ces petits livres de la série Gore des Alpes, mais voilà, vous avez ce rythme de 2 ans avec Slatkin pour vos romans. C'est une aventure de la quarantaine, hein, on ne va pas aller plus loin que ça, mais vous vous êtes dit un jour, il faut que ça sorte, il faut que j'écrive, parce que c'est pas anodin non plus de se dire il y a un truc que je veux faire, c'est écrire.
Alors en fait, je commençais souvent une histoire, j'écris pratiquement depuis toujours. Dernièrement, j'ai croisé une petite fille qui dessinait des contes de fées, puis qui mettait 2-3 mots de texte, puis je rigolais, puis j'ai dit à ce moment, j'ai aussi commencé comme ça. Mais je finissais jamais rien. Donc de temps en temps, je commençais une nouvelle ou un roman en vacances, en général, pendant mon temps libre. Et puis je le laissais tomber une fois que je reprenais mes activités professionnelles.
C'est quoi ? C'est le tourbillon de la vie ? C'est la peur de finir ?
Non, c'est vraiment le tourbillon de la vie.
Il faut bosser.
C'est un jour où je me suis dit, en fait, il faudrait que je me pose et que je vois si j'arrive à terminer un roman. Et mon challenge personnel, c'était ça. C'était même pas de trouver un éditeur ou que sais-je. C'était de me dire, est-ce que je suis capable de me poser pendant plusieurs jours de suite, semaines, d'écrire un roman et puis de le terminer. Et puis, pour ce faire, j'avais demandé un congé non payé que j'avais obtenu. Et puis, ça m'a permis de terminer mon premier roman qui était Malattrait.
Malattrait.
Voilà. Donc, des fois, c'est simplement se donner la permission à soi-même de tenter quelque chose en ayant un objectif qui n'est pas forcément... mon objectif, ce n'était pas le Goncourt. Hein. Donc, ça m'a embarqué. À partir du moment où j'ai terminé un premier roman, je me suis rendu compte, c'est un peu comme le marathon, je me suis rendu compte que j'en étais capable. Et puis je me suis dit, oulala, ça prend quand même de l'énergie et du temps, donc plus jamais. Et puis le plus jamais s'est transformé en je suis en train d'écrire le prochain. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu la même logique que le marathon ou les courses en distance.
Je dis souvent, c'est un muscle, hein, que ce qu'on écrive des chroniques de radio ou des articles dans les journaux, d'ailleurs, dans nos confrères et sœurs journalistes, quel que soit l'exercice d'écriture, il faut l'entraîner et l'entraînement crée une sorte d'endorphine, c'est presque de la drogue, il faut écrire, quoi.
Exactement, c'est de l'entraînement, de la persévérance et puis de la discipline.
Aujourd'hui, vous êtes à l'aise dans l'écriture ou c'est un combat ?
C'est un combat toujours. Ouais. Alors j'aime bien aussi me mettre en danger en mettant des défis, en allant sur d'autres chemins. Donc c'est pas sûr qu'il y ait un prochain roman programmé chez Slatkin dans 2 ans. Là, je vais peut-être prendre un petit peu de marge parce que j'aime bien aussi explorer.
Je vais essayer d'avaler cette information. En fait, Sans que ça se voit trop.
Oui, c'est quand les gens me disent, en fait, dès que vous publiez un livre, les lecteurs les plus assidus et lectrices vous disent, c'est quand le prochain?
Mais lis celui-là déjà.
C'est ça. Et puis en fait, la réponse actuelle, elle est vraiment et sincèrement, je n'en sais rien. Mais par contre, il y a des petites nouvelles dans des recueils collectifs. Il y a 2-3 surprises comme ça qui émaillent un petit peu l'année. Mais c'est vrai que je n'ai pas prévu de prochain roman pour l'instant parce que j'explore aussi.
Bon, il faut dire aussi quelque chose de la vie d'un écrivain, d'une écrivaine en Suisse. Hein. Les ventes, même quand elles sont bonnes, elles permettent pas forcément d'acheter une villa avec vue sur le lac et de vivre doucement.
Hein. Alors, c'est clair qu'on ne vit pas ça plus.
Vous écrivez sur votre page LinkedIn, chargée de communication le jour, écrivaine la nuit, hein, écrivaine de romans policiers la nuit. Il faut bosser à côté, c'est le lot, quoi. Hein.
C'est ça.
Voilà.
Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup misé sur l'écriture et puis j'ai aussi du plaisir parce que j'ai rencontré plein d'autrices, d'auteurs super. Ben, à Monteil, il y a la maison des écrivaines, des écrivains et des littératures, Lamel, qui fédère aussi toute une vie associative qui me plaît. Ben, l'aventure de Gore des Alpes, où c'est aussi très plaisant de faire des stands et des foires avec Gore des Alpes, foire au sens premier du terme. Il y a la foire au lard de Martigny-Bourg à laquelle Gore des Alpes est présent. Donc voilà, ça fait des tas d'événements merveilleux, mais c'est vrai que j'ai aussi besoin de refaire plus de montagnes et d'autres activités ressourçantes.
Alors justement, dans vos 2 premiers romans, il y avait la montagne, c'était Malatrait, il y avait le lac et les activités lacustres, hein, dangereuses. Le paddle était dangereux dans Mes en paix, qui venait un petit peu de vos activités à vous. Là, c'est la drogue. Vous êtes toujours dans cette part de vous-même que vous mettez dans vos romans.
Pour l'instant, moi, ma drogue, c'est surtout le café et le chasselas. Donc, j'ai pas de scoop à ce
voilà,
niveau-là.
Pas de prison pour ça. Donc,
pas de prison normalement. C'est vrai que le jour où le café est interdit, je risque assez gros. Par contre, ce qui m'intéresse, enfin, ce que je trouvais très intéressant, c'est de porter mon regard sur les addictions ou les dépendances, quelles qu'elles soient. Donc, j'ai des personnages qui ont différents rapports avec différentes substances ou différents comportements. J'ai un personnage qui est complètement accro aux écrans et ça va mal se passer pour lui parce qu'il va être obligé de s'en passer, notamment de se passer de son smartphone. Et pour lui, c'est un petit peu la fin du monde. Donc, c'est un roman qui vient pas de mes activités sportives, mais plutôt d'observations, de questions que je peux me poser sur la société. Alors, avec aussi beaucoup d'humour et beaucoup de blagues, parce que dans un polar...
Les activités sportives ne sont pas exemples d'attitudes de drogués. Hein,
absolument.
Et de dépendance.
C'est ça. Et le sport peut aussi être une dépendance. Mais c'est vrai que là, j'ai ouvert la question et puis c'est plutôt, au sens large des questions de société qui me traversent et dont je n'ai pas la réponse. Hein. Moi, je ne sais pas du tout un livre de morale ou que ça. Chaque personnage, il y a plein de personnages comme d'habitude dans mes romans, chaque personnage a sa part de soleil et sa part d'ombre, donc on peut s'identifier plus ou moins avec l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'à travers ces personnages, je porte différents regards sur la société, et puis après c'est au lecteur ou à la lectrice de choisir et de se faire son opinion.
On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette émission, on parlera un peu plus du livre, puis un petit peu de votre cuisine aussi, hein, comment vous créez. On se retrouve dans un instant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Emmanuel Robert, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours dans ce vieux quartier du Cloître à Aigle. Vous êtes aiglonne, hein, je ne l'ai pas dit, vous êtes aiglonne d'adoption aujourd'hui. Vous venez de la Chaux-de-Fonds, mais migrante dans le canton de Vaud depuis un certain temps. Vous avez trouvé un équilibre, on parlait tout à l'heure de vos activités de course en montagne, etc. Un équilibre nature-ville avec Aigle, avec une bourgade, une ville comme Aigle.
Ah oui, Aigle, c'est vraiment la solution parfaite. C'est un petit peu la ville à la campagne. Je suis au pied des montagnes. Et puis, c'est une ville aussi qui est très riche culturellement et multiculturellement. Et je m'y sens bien et dans le Chablais de manière globale.
dans le Chablais de manière globale.
Je refuse de choisir entre les deux rives du Rhône.
Mais vous posez vos bouquins plutôt sur la Riviera, hein?
Alors, je pose plutôt mes livres sur la Riviera en ce moment, mais c'est vrai que je suis pas mal active ces derniers temps, côté Valais aussi, et ça me plaît bien.
Bon, il y a dans ce livre, donc, Riviera, le centre du livre, c'est Vevey, avec le canton de Fribourg, on va le voir, la base, on va le dire tout de suite, hein, c'est une vraie affaire, moi je m'en souviens, j'avais une quinzaine d'années, une affaire de découverte d'un réseau international de drogue au Paco, au-dessus de Châtel-Saint-Denis. Vraiment, c'était un truc incroyable, quoi. C'était la Zodze Connection à l'époque. C'est ce fait divers-là qui vous a... Enfin, ce fait divers, c'est pas vraiment un fait divers, c'est une grosse affaire policière, hein, qui vous a inspiré.
Oui, alors c'est la collision entre cette grosse affaire policière et puis ce qui se passe en ce moment dans certains centres-villes, dont Vevey, avec le trafic de drogue. Je sais pas comment mon cerveau a tiré un fil entre les deux choses en faisant un aller-retour entre le passé et le présent. Et ce qui me fait rire, c'est qu'avec la promotion du livre, en signant beaucoup dans des librairies, j'ai pas mal de personnes qui viennent me confier des choses a posteriori. Donc j'ai rencontré quelques témoins avant d'écrire le livre. Mais là,
quelques témoins de l'époque. Donc,
de l'époque, ouais. Exactement. Puis là, d'avoir d'autres personnes qui viennent me raconter des anecdotes liées au Paco ou à... on est en Suisse romande, c'est un petit milieu. Donc j'aurais presque de quoi faire un deuxième tome, tellement c'est riche. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est un peu oubliée, qui était un peu oublié maintenant, mais qui a vraiment marqué les personnes qui l'ont vécu.
On avait tout à coup Hollywood qui s'installait en Suisse romande, hein. C'était complètement dingo parce qu'on connaissait justement les grosses affaires marseillaises en Europe, hein, la French Connection, etc. Les États-Unis parlaient de ces questions-là. On créait d'ailleurs des services de police, vous le dites dans votre livre, hein, la DEA a créé dans ces années-là pour faire face aux questions de la drogue. En Suisse, ça paraissait invraisemblable. C'est un peu du même ordre que le temple solaire, quoi. Tout à coup, un truc incroyable qui se pose chez nous, quoi.
C'est ça, en Suisse c'était pas possible, et la Suisse n'était pas vraiment sur la carte de la grande criminalité internationale, enfin si, elle l'était, mais pas dans
les
l'esprit
y étaient, peut-être.
Mais voilà, mais pas dans l'esprit du commun des mortels ou des gens. Donc c'est vrai que qu'il se passe un truc lié à la criminalité internationale au Paco, où il se passait d'ailleurs jamais rien, c'était complètement surréaliste, et pourtant ça s'est passé. Puis c'est l'événement qui a un peu posé la Suisse sur cette carte, en disant mais non, attention, ces réseaux sont actifs jusqu'en Suisse. Et ça, je trouvais hyper intéressant de raconter comment ça s'est passé. Donc j'ai le commissaire Michel Genoux là qui m'a ouvert sa mémoire, donc c'était hyper intéressant de parler avec lui, et puis même d'avoir aussi les échos d'autres témoins à divers
C'est là que j'ai envie de parler de cuisine un petit peu, ou de laboratoire, hein, puisqu'on parle de drogue. Il y a un vrai travail de documentation, on le sent déjà. Vous mettez en début de certains chapitres, hein, des extraits de rapports sur la consommation de drogue, sur la lutte contre la drogue dans le canton de Vaud ou en Suisse. Il y a un vrai travail avant de commencer le premier chapitre, le premier paragraphe, d'aller rencontrer des gens, d'aller se documenter.
Alors ça a été un travail en parallèle. C'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais pas compter que sur mes souvenirs parce que j'étais toute petite à l'époque, mais c'était à partir du moment où l'idée de l'histoire m'a traversée. Pour l'anecdote, j'attendais le train et le train avait 25 minutes de retard, donc j'ai commencé à pianoter sur mon téléphone en disant ça fera une petite nouvelle, et c'est devenu un roman. Et puis en écrivant, je me suis vite rendu compte que j'étais
à cause du retard d'un train.
À cause du retard d'un train.
Merci les CFF
que je remercie d'ailleurs dans les remerciements à la fin du bouquin. Et puis un retard sur la ligne du Simplon pour changer. Et puis c'est vrai que
merci les CFF, mais prends quand même ça dans ta tronche.
Et c'est vrai que j'ai vite vu les limites et qu'il fallait que je me renseigne de manière plus sérieuse sur le sujet. Ouais.
C'est intéressant cette affaire-là, parce que ça sort bien dans votre livre. Alors, on est dans une affaire de drogue. On navigue d'ailleurs, hein, de ces années-là. Vous mettez en scène cette affaire-là, romancée, j'imagine, hein, mais avec l'époque d'aujourd'hui. Et puis, on voit même une espèce de désarroi de la police et du monde judiciaire à l'époque, qui n'y croient pas, qui ne veulent pas prendre ça au sérieux. Il y a un flic qui veut y aller, mais qui doit vraiment se battre pour convaincre les juges d'ouvrir une enquête. En gros, c'est pas pour nous, quoi.
Alors ça, c'est vraiment historique.
Ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça. Et c'est vraiment, c'est un flic et un juge qui ont fait alliance.
Faut ouvrir une enquête.
Mais c'est vrai que, alors, il faut rendre hommage à la police fribourgeoise de l'époque et au juge Piller qui a eu le courage d'ouvrir cette enquête. Mais c'est vrai qu'au niveau confédéral, ils étaient morts de rire en disant non, mais vous déconnez, quoi. Donc, et puis
on aurait pu penser l'inverse d'ailleurs. On aurait pu penser que la police de la Confédération, la police aurait été plus, enfin, le ministère public de la Confédération aurait été plus actif dans un truc qui concernait l'international. Non, c'est la petite police cantonale fribourgeoise qui a été sur les devants.
Les lauriers, c'est vraiment la police et l'ordre judiciaire fribourgeois, effectivement. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est aussi un hommage à la police de terrain et aux magistrats de terrain.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a une profusion de personnages. Alors, c'était déjà le cas dans les autres. J'ai noté, confirme ce choix de ne pas se concentrer sur un personnage. C'est parfois déroutant pour vos lecteurs et lectrices. On se demande, alors là, vous en avez un qui parle à la première personne. Tous les autres, c'est à la troisième personne, mais il y en a un qui parle à la première personne. Finalement, on vous suit, qu'il n'y a pas besoin d'un personnage principal, récurrent et dominateur. Mais c'est plus compliqué à faire, j'imagine.
Ça dépend pour qui. C'est vrai que moi, j'adore les romans...
C'est un peu comme de la mosaïque, votre travail, quoi. Chacun a sa petite histoire, puis il faut que ça colle à la fin, quoi.
Ouais, ou une sorte de site web interne, ou de zapping interne. C'est vrai que moi, j'adore les romans feuilletons du 19e siècle, et pas seulement feuilletons, mais aussi les Russes, Dostoïevski, etc. Et puis, il y a plein de... Ça fourmille de personnages et de points de vue. Puis c'est ce qui m'intéresse dans un livre, tenir un seul point de vue. Peut-être que je le ferai une fois, parce que ça me changerait. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment comment une intrigue va se construire à partir de la pluralité des regards. Parce que vous aurez, par exemple, un regard sur le quartier du Cloître à Aigle, où on est, en disant, vous serez attentif à telle chose et telle chose. Et puis moi, je serai attentif peut-être à quelque chose de complètement différent. Et à la fin, on va pas faire la même visite, pas voir les mêmes crèches, pas être attentif à la même ambiance. Et puis, je trouve que...
Mais il se sera passé le même événement.
Mais il se sera passé le même événement.
La découverte d'un trafic de drogue dans un caveau du quartier du Cloître.
Non, il y a suffisamment de trafic de vin par ici pour. Et puis, c'est vrai que je trouve que pour un thriller, c'est plus un thriller qu'un polar pur et dur. C'est ce qui est intéressant, c'est de confronter les points de vue, de voir comment les gens vont vivre la même réalité, s'emparer de la même réalité, et puis comment ça va faire avancer l'intrigue ou pas.
Il y a des policiers qui vous ont ouvert vos portes, leurs portes, en tout cas leur mémoire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vos flics. Alors, j'ai pas le souvenir très précis des deux premiers que j'ai lus et que je vous avais reçus d'ailleurs, mais là, vos flics sont toujours très humains. Hein. Vous n'avez pas les shérifs, vous. Vous n'avez pas les... ceux qui disent il faut taper d'abord et réfléchir après.
En fait, je me méfie des super-héros. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain avec ses failles, avec les questions qui se posent. Donc, mes trafiquants, ils sont aussi attachants. J'essaye justement d'avoir chez chaque personnage une complexité de l'être humain. Parce que je trouve que c'est facile de dire qu'il y a les salauds et les anges. Et puis, quand on se retrouve, y compris à suivre comme journaliste un procès au tribunal, on se rend vite compte que la personne qui est jugée, même si c'est un assassin, c'est quelqu'un qu'on croiserait dans la rue sans le savoir.
Et qui tombe parfois, qui tombe de l'autre côté, du côté qui va l'amener dans un tribunal de façon très, très fine, quoi. C'est tout à coup une minute.
Ça peut être le fait de ne pas avoir choisi ou d'avoir des fréquentations qui vous entraînent à rendre un service. Et puis c'est aussi ce que j'ai voulu explorer dans le livre, c'est comment le fait de choisir ou de ne pas choisir peut complètement changer une vie ou un destin. Donc c'est vrai que dans mes romans, les enquêteurs sont à la même. C'est de loin pas des super-héros, mais...
Oui, mais c'est plus que ça. Il y en a, votre personnage, là, John Christian Hoguet, ça c'est rigolo aussi. John Christian, qui vient des Ormonds, donc, évidemment, avec un nom comme ça, qui bosse à Vevey, police de proximité, puis il est clairement entré dans la police pour des raisons sociales, pas pour des raisons de sécurité ou d'insécurité. Il veut de la proximité, il veut améliorer le monde, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est aussi un des travaux de la police ou d'une certaine police de proximité. Je trouve intéressant de parler de ces tâches de police municipale aussi, et puis pas seulement des grands enquêteurs ou de la recherche forensique ou de ce genre de choses, mais moi j'essaye de me mettre à hauteur d'humain toujours dans mes bouquins.
La recherche forensique.
Alors justement pas à la hauteur de recherche.
Non, mais la recherche forensique, c'est la...
Ah, c'est la police scientifique, la criminologie, les experts, hein, c'est ça, ouais. L'analyse des traces, des balles, etc., ADN. Et puis c'est vrai que c'est scientifiquement certainement passionnant. Déjà, de un, j'y connais absolument rien, mais c'est vrai que c'est moins l'aspect scientifique qui m'intéresse que le côté humain et de ce qui va se passer entre les différents personnages.
La patte des destins, hein, les destins qui peuvent... Vous avez un personnage là qui n'est pas du tout destiné à ça, c'est un paysan, je dévoile rien, c'est toujours compliqué les polars, on sait pas, on ose dire ou pas, mais un personnage qui va tomber parce que il y a évidemment un petit peu de lumière, d'une richesse facile, mais il y a aussi être cool avec son copain, quoi. Et
c'est ça, il a rendu service à son père.
Cette phrase, avoir bon cœur, c'est un luxe que tu peux te permettre seulement si tu as de bonnes fréquentations. Ça, c'est une des punchlines d'Anne-Marie, hein, c'est la maîtresse des punchlines, c'est un de vos personnages, Anne-Marie, avec ce côté, on tombe du mauvais côté ou du bon côté sur un claquement de doigts, quoi.
C'est ça. Et puis ça arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive dans l'écriture ? On imagine bien, hein, ça dure 2 ans le processus, en tout cas ça a été votre rythme pour l'instant. Il y a beaucoup de solitude là-dedans, l'écriture est un exercice solitaire. Encore, vous avez cité Lamel, hein, qui a cette idée de faire en sorte que les écrivains et les écrivaines se côtoient et peut-être s'enrichissent mutuellement. Et puis après, il y a le marché, il y a rencontré les loulous comme moi, il y a rencontré le public, les signatures, etc. Les deux exercices vous plaisent ?
Ouais, j'aime bien les deux. Alors écrire, c'est aussi, je pense que ça répond au besoin de se raconter des histoires à soi-même et puis aux autres, et puis de faire quelque chose de ses mains. Moi, je suis nulle en tricot, donc il faut bien que je fasse un truc. Et donc, j'ai trouvé mon compte dans l'écriture. Et puis, j'aime bien justement ces deux tons, ces deux côtés. Alors, écrire, c'est un exercice solitaire, mais pas tant, parce que on a aussi un éditeur ou une éditrice qui va relire, faire des suggestions.
Ça, c'est une question que je me pose. Tiens, c'est un travail de la durée avec elle ou lui, votre éditeur, votre éditrice, ou est-ce que c'est chapitre par chapitre, est-ce qu'on lui montre un produit fini puis après on commence à discuter, ou est-ce qu'on vous accompagne dans le processus complet de l'écriture ?
Alors tout est possible, en fait il y a tous les cas de figure. Moi c'est plutôt je donne une première version, une version qui a déjà été relue, et puis j'attends impatiemment au retour en me demandant ce que la personne va en penser. Mais après c'est vraiment des réglages très fins qu'on trouve entre nous, parce que la lectrice va trouver que j'exagère par exemple avec le parler vaudois, donc je supprime peut-être
certaines tournures. Oui, il y a plein de notes de bas de page pour nos amis français, hein, sur
c'est ça. Donc il y a ce travail, pour moi c'est plutôt un travail au long cours une fois que le manuscrit est fini, mais c'est vrai que moi j'apprécie aussi beaucoup de rencontrer les lectrices et les lecteurs, les journalistes, enfin je trouve que en fait le livre n'existe pas tant qu'il ne crée pas du lien. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est de pouvoir partager aussi nos lectures, de ce qu'on aime lire, et peu importe ce que les gens aiment lire, hein, ça peut être de la poésie, de la romance, du polar, mais simplement de lire et de parler de ce qu'on a aimé et de pourquoi on a aimé ce bouquin ou de pourquoi on l'a pas aimé. Et ça, voilà, ça crée du lien entre les gens, ça permet de passer un bon moment. Et pour moi, c'est vraiment une des choses essentielles du bouquin. Il y a une phrase de Jean Cocteau que j'aime beaucoup, donc je vais me permettre
Allez,
de la dire.
Pour finir.
Écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture.
Voilà, et puis moi je vais citer Emmanuel Robert pour terminer. Je fais pas confiance aux mots, on peut leur faire dire trop de choses. Ça c'est un de vos personnages qui dit ça, c'est une punchline aussi, il y en a plein dans ce roman. Chapitre très court, page turner, on a envie de connaître la suite. Il y a de l'histoire d'amour, il y a des destins, c'est vraiment un très bel troisième exercice, Emmanuel Robert, Immaculée Connexion, donc aux éditions Slatkin. Merci à vous.
Merci beaucoup.